Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est danseur et chorégraphe. S'il crée sans discontinuer depuis une trentaine d'années, une responsabilité supplémentaire pèse sur ses épaules depuis 2 ans. En 2022, il a pris la tête du Tanztheater Wuppertal. C'est une compagnie de danse contemporaine légendaire, celle fondée en 1973 par la danseuse allemande Pina Bausch, qu'elle a dirigée durant toutes ces années, et dont il s'agit désormais de continuer à faire vivre l'héritage. Et pour cela, il crée avec les interprètes de cette compagnie et notamment ce spectacle intitulé Liberté Cathédrale. Il se joue à Paris au Théâtre du Châtelet en association avec le Théâtre de la Ville jusqu'au 18 avril prochain.
Bonjour Boris Charmat.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
J'ai l'impression d'être voûté avec le poids que vous avez décrit du Tanztheater.
C'est pour ça que, c'est que le micro est trop bas aussi.
Ah mais c'est ça, mais je vais le remonter un peu.
Voilà, c'est... Ah voilà.
Et vous allez voir, ça va
tout de suite mieux, mais c'est ça, c'est le message que je voulais faire passer.
Jamais compris que vous étiez redressé au moment où j'ai prononcé ces mots. Boris Charmat, on va parler bien sûr de cette création, de ce que racontent les danseurs et danseuses dans cette salle du théâtre du Châtelet. Parlez-nous du lieu de la création de ce spectacle, parce que ça a évidemment son importance. Le spectacle que moi j'ai pu voir hier, j'avais pas l'impression d'être au Théâtre du Châtelet dans sa façon habituelle, mais racontez-nous d'abord le lieu de cette création. C'était une église, pas très loin de Wuppertal, justement.
Bon, vu d'ici en France, c'est à Wuppertal, mais c'est quand même à 10 km de Wuppertal. Et l'église s'appelle le Mariendom, à Neviges, un petit village en fait. Et c'est une église magnifique, on dit brutaliste, mais je sais que l'architecte n'aimait pas trop le mot. Alors, mais c'est une église de béton, fin des années 60, extrêmement belle. Et c'est à la fois une sorte d'immense tente de béton, une place publique, parce qu'il y a même des... Il y a comme des lampadaires, en fait. Il y avait vraiment l'idée de l'espace du rassemblement. Et c'est un lieu de pèlerinage. On va dans cette église pour être sauvé depuis... et on vient dans ce village, et au départ dans l'ancienne église baroque qui est attenante. Et puis maintenant, dans cette église brutaliste, on vient pour être sauvé. Il y a une toute petite image de la Vierge, c'est pour ça que ça s'appelle le Mariendom, qui est censé sauver, nous sauver tous d'ailleurs. Et on a presque habité dans l'église au sens où on a répété beaucoup, beaucoup. On avait vraiment les clés de l'église et on a répété aussi en public avec des gens qui visitent. Et c'était très fort en fait de passer un temps important pour créer cette pièce. On avait du coup du mal à imaginer comment ça allait se passer à l'Opéra de Lille par exemple. On était en décembre dernier et finalement les théâtres, le Châtelet c'est le cas aussi, c'est quand même vraiment... d'une certaine manière, l'église des arts vivants. Et donc, la hauteur, l'ampleur, notamment là, au Théâtre du Châtelet. On s'installe, comme on s'était installé dans l'église, d'une certaine manière, on amène les lumières créées dans l'église, les cloches, l'orgue de l'église, de notre création, on l'amène au Châtelet. Et bien sûr, ça déplace, du coup, l'expérience du Théâtre du Châtelet.
L'expérience et les spectateurs qui se retrouvent à entourer ce grand espace cathédral, comme on peut aussi le dire quand on parle d'architecture. On est tout autour, les interprètes se retrouvent au milieu, surtout il n'y a plus cet affrontement, ce face-à-face entre ceux qui dansent et les spectateurs qui sont là, puisqu'on se retrouve sur la scène, dans les coulisses, on est sur des gradins, la place de l'orchestre a totalement disparu, on se retrouve tous à ce même niveau. Il fallait changer la perception de cet espace théâtral pour en faire justement un espace cathédral.
Ben, déjà, il y a des spectateurs qui m'ont dit « Mais comment as-tu réussi à faire ça, transformer le théâtre à ce point ?» Mais en fait, c'est vraiment les équipes qui travaillent avec moi, hein, l'association Terrain, le Tanztheater Wuppertal, et puis le Théâtre de la Ville et le Théâtre du Châtelet, je dirais la main dans la main, qui ont réussi à faire ça. Effectivement, la scène est prolongée sur les fauteuils d'orchestre. Donc ça permet d'avoir du public à 360 degrés, en grande proximité. Mais ce qui est fort, c'est que même quand on est au balcon, tout en haut, on voit du dessus. Et je crois que ça instaure un rapport très direct comme ça avec les danseurs. Il y a 26 danseurs, c'est une grosse, grosse équipe. Et effectivement, j'adore l'espace du Châtelet comme ça. On pourrait dire qu'il n'y a pas de décor. C'est une sorte de scénographie. Mais en fait, la scénographie, c'est l'architecture du public. Et c'est, je crois que ça révèle le théâtre dans toute sa majesté, je sais pas. Mais il y a quelque chose de très fort, en fait, à être dans ce théâtre-là, dans ces conditions-là.
Oui, c'est vrai qu'avant même que le spectacle commence, on vit déjà cette expérience, effectivement, de passer des portes qu'on ne doit pas passer normalement, de se retrouver dans l'arrière-scène, d'être à la même hauteur que la scène habituellement. Et puis, on découvre eh bien, l'arrivée des danseurs et des danseuses. Un teaser de ce spectacle, Boris Charmatz, Liberté Cathédrale, c'est au Théâtre du Châtelet jusqu'au 18 avril prochain. Et puis, on vous verra aussi avec ce spectacle au Festival d'Avignon cet été, les 5, 6, 8 et 9 juillet. On a entendu dans cette bande-annonce les différents moments en fait de cette pièce, Boris Charmatz. Il y a des sensations qui sont très très différentes et ça commence peut-être par ce chant. Les danseuses et danseurs débarquent de tous les côtés sur cet espace scénique. J'ose même pas dire que c'est une scène puisque on l'a décrite, ça n'y ressemble pas, en chantant. C'est cette idée de chanter et bouger. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Parce qu'à voir, c'est presque stupéfiant.
En fait, je suis fasciné par l'opus 111 de Beethoven, et le deuxième mouvement est très long. Il y a une émotion très particulière dans ce morceau qui est pour piano, qui n'est pas du tout chantable. Et donc, d'une certaine manière, c'est impossible.
C'est pas ce qui vous arrête.
Oui. Mais j'aime bien les défis et on a décidé de chanter la mélodie. Il n'y a pas une mélodie, c'est du piano. Mais d'une certaine manière, une réduction comme ça de la mélodie de cet opus 111. On le chante a cappella, à l'unisson, en faisant la la la. Donc c'est très, il y a quelque chose de, c'est une réduction, c'est très basique, mais ça nous rassemble vraiment. Et on a décidé de le chanter sur le souffle. C'est-à-dire qu'au lieu de le chanter dans le rythme de je sais pas, de la version d'Alfred Brendel ou d'Alexandre Tarot, on le chante sur le rythme du souffle. Et on commence, ce qu'on entendait d'ailleurs, on commence, c'est les premières notes de ce mouvement, mais on le fait jusqu'à ce qu'on ait plus de souffle. Et pendant ce moment où on chante, on danse comme des fous. On court, on passe au sol, on fait 10 000 positions, on se relève, on court. Et quand on n'en peut plus, on s'arrête. Et donc ça fait quelque chose de l'ordre de l'apnée, ça fait quelque chose. Et ça évoque ensuite les grandes orgues ensuite qu'on entend, c'est de la respiration continue. Nous, on chante du Beethoven, mais jusqu'au bout du souffle. Donc ça, on est d'emblée sur quelque chose d'assez existentiel, en fait. Et on essaie de faire tout ce deuxième mouvement. Et les danseurs, on travaille comme des fous. On est aidé par Dalila Katir qui nous coach à la voix. Et c'est très poignant en fait de voir toute cette équipe. Il y en a qui ont un bagage musical fort, d'autres pas du tout.
Oui, ça chante juste quand même.
À peu près, oui. Mais c'est surtout, en tout cas, on y travaille. Mais c'est surtout l'investissement et le fait d'aller jusqu'au bout du souffle et d'avoir cette partition de souffle vocal ensemble. Et en même temps, chacun fait quand même un peu ce qu'il veut dans la chorégraphie.
Oui, il y a de l'improvisation, ça on le sent, mais elle vous aide évidemment à créer. Mais d'où vient l'idée de se dire, voilà, je vais faire chanter mes danseurs, je vais les essouffler, je vais les épuiser, les pousser à bout, pour quel but ?
En fait, alors la pièce, elle est vraiment née d'idées, de principes musicaux, physiques. C'est-à-dire, on s'est dit église, et là c'est une église sans église, hein, parce qu'on n'est plus dans l'église. Mais je me disais, alors voilà, j'ai depuis très longtemps, j'ai eu envie de chorégraphier sur des volets de cloches. Alors qu'est-ce que ce serait ? On est parti sur une sorte de fête, le headbanging, de quelque chose de presque de comme une fête techno, sauf que c'est sur des cloches, c'est des rythmes de cloches, voilà, de quelque chose de très presque comme une transe comme ça sur des cloches. J'avais envie qu'il y ait une partie en silence, j'avais envie qu'il y ait une partie d'orgue en contact sur le toucher, parce que le toucher, évidemment, c'est aussi ce qui est en partie interdit dans l'église ou compliqué, et la danse aussi, et c'est quelque chose de compliqué dans l'église. Et puis, il y a beaucoup de chants dans les églises, je cherchais à chanter quelque chose, et on est parti sur ce Beethoven. Donc, c'était des directions comme ça, il y a 5 parties, il y a une partie de texte aussi, et on a essayé de garder ces blocs-là, en fait, assez séparés, la pièce est en 5 blocs, et on se prend un peu ces blocs en pleine poire. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais...
Il y a quelque chose, effectivement, du ressenti de ce que vivent les danseurs sur scène et danseuses, presque encore plus fort, puisqu'on est au même niveau qu'eux, et qu'ils s'approchent très près de nous. Il y a aussi, vous parliez du contact, il y a celui entre le toucher, entre les danseurs. Ils s'emmènent, ils se poussent, ils se projettent aussi, on pourra y revenir. Mais il y a aussi ce contact très fort avec le public, malgré, ça pourrait être contradictoire, ce très grand espace. Bon, ils sont très nombreux, ils sont 26, vous l'avez dit, mais voilà, il y a cette idée aussi de confrontation, de communauté avec les spectateurs.
Alors, dans mon travail, il y a souvent une sorte de perméabilité entre le plateau et le public. J'ai fait aussi beaucoup de projets dans l'espace public, donc où il n'y a pas de scène, il n'y a pas de gradin. Là, on a quand même des chaises. On a quand même une sorte de scène, on va dire. Mais je pense aussi beaucoup au fait que dans les pièces de Pina Bausch, et là, il y a une grande partie de l'équipe a dédié sa vie, son âme aux œuvres de Pina. Le fait d'avoir un contact, les yeux dans les yeux avec des spectateurs, avec les spectateurs, que chacun se sente adressé par la pièce. C'est aussi quelque chose qui m'a marqué depuis 2 ans et demi que je m'investis avec la compagnie, de voir dans les pièces de Pina la manière dont on gère les regards entre les spectateurs et nous, et les espaces aussi. Donc, il y a une proximité, on ne fait pas de la même manière dans les pièces de Pina ou dans mon travail, mais j'aime cette perméabilité-là. Et c'est vrai qu'il y a des parties, du coup, dans la pièce qui sont même pas devant les gens ou à proximité des gens, qui sont sur les gens, voilà. C'est peut-être pas... Il y a une pièce qui s'appelle 10 000 gestes, où là, on fait vraiment des choses limites avec les gens. Là, je crois pas que ce soit limite, mais il y a effectivement une grande proximité.
Et pourquoi c'est important, cette proximité-là, avec le public? Parce qu'en général, la danse, ça reste trop à distance, selon vous,
Moi, j'ai l'impression que la danse m'emmène partout. C'est-à-dire que j'aime l'idée que la danse, c'est un espace mental. On danse sous la douche, on danse devant son téléphone, on danse sur scène, on
danse
dans les cours de danse.
Alors moi, je danse peu sous la douche. Je chante sous la douche, mais je danse peu sous la douche.
Je sais pas, mais mais c'est une erreur, en tout cas, parce que c'est super.
Je vais m'y mettre dès demain matin.
Voilà. Non, mais on danse. Enfin, moi, je dis toujours que je danse beaucoup. J'invente les pièces avant de m'endormir. Donc, la danse va dans plein d'endroits. Et pour moi, j'aime la danse de scène, mais j'aime les danses sociales, j'aime le fait qu'il y a une sorte... La danse, c'est l'instauration d'une perméabilité entre les corps. C'est, bien sûr, on peut dire que c'est aussi égocentrique, c'est son plaisir sur sa musique, bien sûr, mais c'est aussi l'endroit de la rencontre, l'endroit où on est traversé. Là, on est traversé par des musiques d'orgue, on est traversé par l'idée de l'église. On est traversé par des choses, des émotions... Mais c'est aussi l'endroit où les corps se rencontrent. Dans les villages, on rencontre son ou sa fiancée. C'est l'endroit où on s'échange des partenaires. C'est l'endroit de la perméabilité. Et j'aime ça. Alors du coup, je fais des spectacles professionnels, mais il peut y avoir des danses amateurs là-dedans. Là, on est avec une équipe d'immenses professionnels, d'artistes incroyables. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas partiellement danser, s'organiser avec le public. Et c'est même pas toujours une décision, mais ça m'intéresse, cette perméabilité.
D'autant plus que ça provoque des choses chez les spectateurs. On y est plongé, je l'ai dit, dans l'ambiance par cet espace, par la lumière aussi qui est particulière, et puis par effectivement ces ambiances différentes en fonction de ces 5 parties. Mais parfois, on peut aussi se dire que ça apporte de la gêne, que vous nous, je disais, vous nous montez dessus, vous nous marchez dessus. Enfin, il y a quelque chose de physique qui bouscule le spectateur. Physiquement.
J'aime bien l'idée que l'expérience de la danse, c'est il y a ce qui se passe dans nos têtes, dans la tête du spectateur, dans la tête du danseur, mais aussi on a du micro et du macro. On a je sais pas ce poème de John Donne, on l'entend fait par des spectateurs et des danseurs répété comme une sorte de litanie. Et c'est un magnifique poème de John Donne. C'est pour qui sonne le glas en fait. Hein, il sonne. Pour toi, il sonne pour nous.
N'envoie jamais demander tout. Pour qui sonne le voilà. Glas, c'est pour toi qu'il sonne.
Mais peut-être que ce même poème ou une autre ligne de ce poème est chantonné dans l'oreille par Tchardash Hermis avec une sorte de mélopée quasi orientale, je dirais. Et du coup, on a à la fois, on l'a dans sa tête, c'est comme si on l'a dans l'oreille, c'est le verre dans l'oreille, hein, je sais pas comment dire, et la vision de loin, parce qu'il y a un danseur qui est en train de faire quelque chose avec ce poème au troisième balcon. Et j'aime bien d'avoir ces distances-là, le micro, le macro, fait que, du coup, la danse n'est pas juste à un endroit bien défini, elle est un peu partout. Et ça m'intéresse, ça me fascine, en tout cas.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
On ne sait pas ce que peut le corps. Vous voyez un bébé là qui rampe. Hein. Vous voyez un alcoolique qui vous parle, hein, qui est complètement ivre. Et puis vous voyez un somnambule qui passe. Là. Oh oui, c'est vrai, on ne sait pas ce que peut le corps. Après tout, ça prépare singulièrement un autre cri qui retentira longtemps après. Et qui sera comme la même chose en plus contractée, lorsque Nietzsche lance l'étonnant, c'est le corps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui est une réaction de certains philosophes qui disent, écoutez, hein, arrêtez avec l'âme, avec la conscience, etc. Vous devriez plutôt essayer de voir un peu d'abord ce que peut le corps. Qu'est-ce que c'est? Vous savez même pas ce que c'est que le corps, et vous venez nous parler de l'âme. Alors non, hein, faut passer, hein. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire, là? L'étonnant, c'est le corps, dira l'autre. Et Spinoza dit déjà littéralement, vous ne savez pas encore ce que peut un corps.
C'était Gilles Deleuze, le philosophe qui donnait un cours sur Spinoza. C'était à l'université, évidemment, Paris 8 Vincennes.
Boris Chamatson, on a bien compris que le cours portait sur le corps. Et donc, Gilles Deleuze qui cite Spinoza, vous ne savez pas encore ce que peut un corps. Est-ce qu'après toutes ces années de danse et de chorégraphie, vous savez ce que peut un corps?
Déjà, je voudrais dire que c'est pas pour rien que les danseurs adorent Deleuze. Hein. On a d'autres philosophes fétiches dans notre famille, comme ça, mais évidemment, quand on l'entend, on se dit waouh. Il avait d'ailleurs lui-même un drôle de corps avec des ongles très étranges qu'on voit
il
dans le film.
Il se les coupait pas. Qu'on le voit dans l'abécédaire.
Voilà, on se dit tiens, mais. Et puis il y a d'autres parties de son travail, le corps sans organes, la déterritorialisation. Enfin, ça a beaucoup parlé, ça parle, et ça parle encore à beaucoup aux danseurs. C'est pas le seul philosophe, mais. Alors après, ce que peut un corps, moi, j'ai le même âge que le danseur Wuppertal. J'ai 51 ans. Je suis né en 73, la compagnie aussi. Je crois que si je savais vraiment pourquoi je danse, que peut faire la danse, ça, bon, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Je me serais peut-être arrêté ou je m'arrêterais l'an prochain. Et puis, en fait, souvent, on ne sait pas et c'est un endroit de questions, un endroit de surprise aussi. Et même le vieillissement est une surprise. Même ce que ne peut pas un corps, c'est aussi quelque chose de très moteur, en fait, bizarrement. Il y a ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux être, on l'entendait, hein, je peux être enfantin, je peux être ivre, je peux être drogué, je peux être dedans ou pas dedans. Et puis, il y a aussi tout ce que je peux pas faire, tout ce que je peux plus faire, tout ce que le vieillissement, c'est même pas le handicap, l'empêchement. L'empêchement à oublier. En fait, c'est aussi des moteurs hyper intéressants. Par exemple, quand j'improvise, j'ai souvent l'impression qu'il y a des gestes qui reviennent alors que j'en voudrais pas. Quand on improvise, on se dit tiens, je vais inventer du nouveau, je vais explorer, c'est magnifique. On ouvre des portes, on dessine des fenêtres, on a des courants d'air. Puis en fait, on se retrouve toujours avec les mêmes choses qui reviennent. Et soit on se dit bah j'ai raté, soit on se dit non mais en fait j'ai d'énormes valises d'éducation, d'histoire, de genre, de tout. C'est pesant, c'est pas pesant, ça revient, on s'en débarrasse pas. Mais ces gestes qui ne passent pas, c'est aussi hyper intéressant de les observer. C'est comme dans l'écriture automatique, c'est comme dans le, je sais pas, c'est le divan de la pianiste, c'est dans les rêves. On voudrait bien pas rêver de ceci ou de cela, mais visiblement, on continue de rêver de la même chose ou ça revient. Et ces impossibilités-là, je trouve que c'est très créateur, en fait.
C'est des réflexes, c'est des choses qu'on a appris, comment on fait, vous, parce que vous, votre rôle en tant que chorégraphe, vous l'avez dit, vous avez commencé à danser vers 7 ans, et puis c'est vrai qu'assez rapidement, vous êtes passé de l'autre côté, du côté de la chorégraphie, de celui qui dirige, qui invente, qui crée.
En vrai, j'ai essayé de pas passer de l'autre côté. J'ai même essayé d'être chorégraphe en étant à l'intérieur, en étant danseur.
C'est pas possible,
ça. La plupart des pièces que j'ai fait au début, là, je suis pas dans la pièce. Mais la plupart des pièces que j'ai fait, j'étais dedans et il n'y avait pas de dramaturge à l'extérieur qui allait nous diriger. Et j'aimais bien l'idée du chorégraphe qui voit pas ce que ça donne. On est dedans, on fabrique des choses ensemble, c'est des actions, c'est des matières. Il y a même une pièce qu'on va jouer d'ailleurs au Théâtre de la Ville fin avril pour un week-end sur la place du Châtelet, ça s'appelle Attention. C'est une pièce à 3 étages. Là, c'est pas moi qui danse, c'est des danseurs du Danseur Wuppertal, mais je dansais en bas et je voyais pas ce que les deux autres danseurs qui sont au-dessus de moi, donc il y a 3 étages, font. Et j'aime bien l'idée du chorégraphe entre guillemets aveugle. C'est-à-dire, c'est pas celui qui dirige, qui sait tout. Je propose des choses et puis après, ensemble, on essaye des choses. Et d'ailleurs, Pina Bausch faisait ça aussi. L'une des pièces très célèbres, Café Müller, elle a les yeux fermés presque toute la pièce. Et elle est en scène. Ça veut dire elle voit pas les lumières, elle voit pas, mais elle les sent, elle les pressent. Et j'aime bien ce principe-là de chorégraphe qui serait pas le Deus ex machina.
Et donc, du coup, l'improvisation, c'est ce qui rythme en quelque sorte vos créations. Mais quand, vous l'avez dit, quand on improvise, on reprend ses gestes, on fait des réflexes. Donc, comment on crée quelque chose de nouveau quand on est maintenant celui qui dirige, qui ne danse plus? Qu'est-ce qu'on dit aux danseurs et aux danseuses?
Bah déjà, il faut que eux, et puis moi aussi, on accepte qu'on ne sait pas trop où on va. Et on sait qu'on va faire une dernière partie où le mouvement ne n'est que du toucher. On n'a pas de mouvement seul. C'est seulement si on touche l'autre que quelque chose se passe. Et quel va être ce toucher, on ne sait pas. On sait qu'on est dans un océan d'orgue que Phil Niblock, le compositeur américain récemment décédé, a composé. Donc c'est une tempête d'orgue, comme si on en appuyait sur toutes les touches de tous les tuyaux à la fois, et on sait que ça va naître par le toucher. Mais après, je sais pas ce qui va se passer. Je nomme des fontes d'iceberg, je nomme des résistances, je nomme des craquements, et on cherche ensemble. Et je crois que le travail se passe au moment où les danseurs et moi, et puis aussi Magali Caillé qui m'assiste, et en fait tout le monde, on se met ensemble et on sait que le terrain, bon c'est le nom de mon association dans les Hauts-de-France, le terrain est mouvant, le terrain il est humide, il y a du compost, je sais pas comment dire, et à partir de là, on cherche et on va voir ce qu'on trouve, mais on sait pas. Et dans ce moment-là, c'est là que ça peut se passer. Ou pas.
Ce qui veut dire que vous comprenez seulement après ce que vous avez fait ou ce que vous vouliez dire ou ce que vous vouliez montrer.
Oui,
mais
oui.
Même pendant une représentation, c'est-à-dire au moment de la finalisation de spectacle devant un public.
Moi, je ne sais même pas si je comprends. Si en regardant la pièce soir après soir, je suis transporté, ben je me dis, voilà, c'est incroyable ce qu'ils font. Et des fois, je me dis justement, c'est vrai que vous avez raison, c'est lourd. Le Danseur Wuppertal, l'association Terrain, on est 26 danseurs, l'église, c'est lourd. Et puis, si le soir, je regarde et je vois une équipe en fusion, quoi. Bon, ben. Moi, ça me suffit. Et après, je ne sais pas ce que chaque spectateur se raconte. Hein, parce que moi, je crois vraiment au fait que chaque spectateur peut se raconter des choses différentes face à cette pièce-là. Je crois la pièce très forte, très puissante. Il y a une intensité que dégagent les danseurs, la danse, la musique, l'espace de cette pièce. Après, il y a des gens qui se racontent des choses très contemporaines, l'état du monde, des gens qui se racontent des choses très spirituelles, des gens qui se racontent des choses très personnelles. Au fond, en plus, les danseurs, on peut être aussi attiré par telle ou telle danseuse, tel danseur. Je crois vraiment qu'on... C'est ça le spectacle aussi, mais un peu comme un livre. Hein. À la lecture d'un livre, on se refabrique son propre livre. Ça n'empêche pas que c'est du Balzac, c'est du Deleuze, mais on digère à sa manière du Deleuze. Je crois que c'est ça l'expérience de l'art ou de la lecture.
Mais à quel moment alors vous savez quand est-ce que vous pouvez présenter un spectacle? Quand est-ce que c'est fini pour vous, ou alors que vous avez fait le tour des représentations?
Alors moi, je déteste l'idée que les représentations s'arrêtent. Donc je danse toujours à bras le corps avec Dimitri Chamblas, qu'on a créé quand on avait 19-20 ans. Je déteste arrêter les choses. Donc quand on me dit là, ça va être la dernière, je dis non, on va pouvoir... J'aime pas trop l'idée de la fin, la finitude, mais parce que peut-être je fais de la danse et on m'a dit depuis le départ, la danse est un art éphémère, et moi je me dis on peut danser aujourd'hui un solo d'Isadora Duncan, évidemment elle est plus là, évidemment on peut danser aujourd'hui du Pina Bausch, ah oui, Yann Minari qui est décédé, Pina Bausch est plus là, et en l'absence, on continue. Moi j'aime, c'est pour ça que je suis à vous partager, je crois. J'aime la continuité dans la discontinuité, qui est la discontinuité de l'existence, mais j'aime l'idée que les gestes nous emmènent très très loin.
Les gestes, la danse, dès l'âge de 7 ans donc, un parcours classique en quelque sorte, le conservatoire, l'école de l'Opéra de Paris, puis le conservatoire national de musique, le conservatoire supérieur de musique et de danse de Lyon. À quel moment, Boris Chamatz, vous vous dites le ballet, la forme classique, la danse plus classique, ce n'est pas pour moi et je ne ferai pas ça?
Alors, la danse classique, elle m'est vraiment arrivée parce que Jean-Luc Chirpaz, un prof au conservatoire de Grenoble, danseur classique, grand soliste, opéra de Paris, bal, ça, virtuose, très jeune, il cherche des gens, il me trouve, et je me dis, je vais faire comme lui, je vais être danseur comme lui. Alors, incapable d'être aussi technique que lui, virtuose que lui, mais il m'entraîne là. Mais par contre, ma culture, moi, très enfant, hein, ma culture, c'est Pasolini, c'est Tarkovski, c'est l'écriture contemporaine, c'est les expos contemporaines, j'ai pas de culture du ballet, j'ai pas la culture de Walt Disney, j'ai vu des films d'animation tchèques, et mon premier Walt Disney par contre je le vois à 26 ans je crois.
T'as vu lequel, film d'animation tchèque?
Bon, je me souviens même plus, mais on allait au festival du film d'animation d'Annecy, on allait à l'Institut Lumière, donc j'ai vu tout Lubitsch, tout Carnet, j'ai 10 ans, j'ai 11 ans, donc c'est ça ma culture, j'ai pas du tout une culture du ballet. Par contre, je comprends aussi que si je veux faire de la danse à haute dose, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, c'est à mi-temps. Je suis entouré d'autres enfants qui veulent faire. On peut passer des heures, des jours, des nuits sur un port de bras, sur comment se place la main. Et alors, je souffre là-bas aussi, mais il y a une sorte d'espace, de discipline où la danse peut envahir tout. Donc je regrette pas du tout, mais du coup il y a pas la rupture, il y a pas je suis dans un monde du ballet et puis là je sors de ça. Je suis à l'école de danse de l'Opéra de Paris, mais on est à Nanterre et on voit Hamlet de Chéreau, Gérard de Sartre vient parler dans notre classe et je veux faire du théâtre quoi. Heureusement, ou je sais pas, d'ailleurs il nous a calmé un peu. Il m'a calmé quand on l'a vu jouer Hamlet, moi je veux faire comme lui, il nous a dit non, voilà, il m'a calmé.
C'est de là que vient cette idée de faire de la danse qui déborde, si je puis dire, du lieu, ça on en a parlé, la salle, la danse, l'espace public, qui déborde aussi de son domaine. Je l'ai dit, les danseurs chantent dans votre dernière création. Ils jouent, en fait, plus la comédie aussi, chacun a son propre rôle. Voilà, d'avoir pris, choper les disciplines voisines, la musique, le théâtre, la littérature, la poésie, le cinéma, c'est votre façon de créer de la danse.
Oui, en même temps, à l'inverse, je pourrais dire, j'étais ultra timide. La danse, c'est ce qui m'a amené. Alors, je voyais du cinéma, je lisais, etc. J'étais un lecteur compulsif quand j'étais enfant, mais la danse, c'est ce qui me fait vous parler aujourd'hui. Donc, c'est quand même la danse qui m'a amené à rencontrer un Chéreau, à lire tel auteur, telle autrice. de telle manière, avec les lunettes de la chorégraphie, les lunettes de la danse. C'est comme si ça m'a permis de rentrer dans le monde, dans la sexualité, dans l'histoire. J'ai l'impression que moi, ça a été ça. Donc, du coup, c'est en tant que danseur que j'imagine un projet au MoMA. Et pas en tant que, tiens, si j'étais artiste visuel, si j'étais un artiste qui... C'est le danseur qui fabrique une collection avec un musée de la danse, qui se met en dialogue avec des grands musées, la Tate Modern, le MoMA. Donc la danse m'a permis, en étant spécifiquement un danseur, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait rencontrer Emmanuel Ecoccia, le philosophe, Emma Bigé, qui est philosophe. Enfin, c'est par la danse que je rencontre l'architecture, de cette manière. Pour moi. Et du coup, je suis prosélyte, mais...
Dans quel monde nous vivons est une question importante pour moi. Il m'est primordial, par exemple, de jouer avec les choses de la vie quotidienne, de les toucher, que les danseurs n'hésitent pas à les prendre en main. Sur scène, tout cela prend un relief saisissant et devient différent de ce que l'on voit à l'extérieur. Et pourtant, ce n'est rien d'autre que cette réalité-là.
Ce sont mes spaghettis. Ils sont tous à moi. Ils m'appartiennent tous à moi toute seule. Ils ne sont qu'à moi. Et je ne les donne pas. Je ne les donne à personne. Et je ne les prête pas non plus parce qu'ils sont à moi. Ils m'appartiennent tous à moi toute seule. Ce sont les miens. Là, voilà.
Un extrait de la pièce Palermo, Palermo par Pina Bausch qu'on a entendu juste avant, c'est en 1991.
Boris Charmas, un mot sur Palermo, Palermo d'abord. Au moment du lever de rideau, il y a un mur qui s'effondre. La création de cette pièce, c'est 1989, en décembre. Évidemment, on pense au mur de Berlin, mais Pina Bausch dit avec son scénographe, on a créé tout cela avant. Il y a des mois, bien avant que le mur ne s'effondre. Ce qui interroge la place de la danse, de la création chorégraphique dans le monde qui est autour de nous. Comment est-ce que vous ressentez l'actualité, le monde dans lequel on vit aujourd'hui et comment ça influence aussi votre travail ?
Bon, tout d'abord... l'extrait de Palermo est génial. Hein. Comment on se saisit du quotidien et on a Nazareth Madandero qui fait cette scène incroyable avec les spaghettis, c'est à moi. C'est inénarrable. Et Peter Pabst, le scénographe, qui a inventé ce mur qui tombe. Hein. Il m'a bien dit, il me le redit que c'est ce mur, il vient. C'est pas le mur de Berlin qui s'effondre, mais c'est devenu le mur de Berlin. Et puis. Aujourd'hui, quand on voit la pièce, c'est pas le mur de Berlin qui s'effondre, c'est les murs qu'on essaye d'ériger, c'est les ruines, c'est du coup ça parle pas seulement du rideau de fer, hein, ça parle de beaucoup d'autres rideaux de fer. Donc après, on est dans le monde tous, on est dans un monde qui est menacé. Je sais pas comment dire. Souvent j'ai On doit réagir à ce monde-là, mais l'absence, l'impossibilité de réagir, c'est aussi une réaction. C'est-à-dire le fait d'être bouche bée, le fait d'être stupéfait, le fait d'être sans voix, d'être le souffle coupé, c'est aussi une manière d'être dans le monde. C'est peut-être pas la meilleure. Il faut aussi agir, il faut s'emparer d'eux, il faut proclamer, il faut s'engager. Mais parfois le fait d'être gelé de stupéfaction, c'est aussi une manière d'être dans le monde. Hein. Donc, je me souviens que on disait Merce Cunningham, c'est pas un chorégraphe politique parce que justement en pleine guerre froide, il y a eu le McCarthy, etc. Lui, il fait une danse abstraite. Alors du coup, c'est pas politique, mais c'était aussi politique de dire je veux faire une danse abstraite. Donc la politique, c'est quelque chose de complexe. Et je crois que, par exemple, Liberté Catharale, c'est pas du tout une pièce contemporaine au sens, on cherche pas à coller à une actualité. On crée la pièce dans une église qui est moderne mais ancienne. On utilise l'orgue qui est un instrument ancien, les cloches. Mais en même temps, les cloches, c'est des messages politiques. Je suis marqué par le fait que les cloches, c'est le premier jour de la guerre en Irak, le glas, hein, la cloche de deuil, de mort, résonne dans toutes les églises de Lyon. Et du coup, envahit la ville. Et c'est le premier jour de la guerre en Irak, c'est un jour de deuil. C'est très, très fort. Après, j'oublie pas qu'à Lyon, c'est aussi l'endroit où on cache des violences pédophiles, comme dans d'autres églises de France et d'Europe et du monde. Donc, il y a une complexité. Et moi, je suis qu'un danseur. Et nous, on n'est qu'une équipe de danseurs. Mais même en essayant pas de faire une pièce contemporaine au sens où s'emparer des signaux contemporains, on est au cœur des silences de l'Église, on est au cœur des conflits d'aujourd'hui, on est au cœur des émotions qui nous traversent.
Pour terminer, Boris Charmat, dernière question, puisqu'on a commencé par le poids sur vos épaules et que vous vous êtes redressé. Être à la tête de cette compagnie, donc depuis 2022 et pendant 8 ans jusqu'en 2030, c'est aussi gérer ce répertoire de Pina Bausch. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez poursuivre cet héritage? Puisque vous n'aimez pas que les pièces se finissent, j'imagine que vous n'aimez pas non plus que les siennes ne soient pas rejouées.
Oui. Bon, il y a aujourd'hui, dans 50 ans, dans 100 ans, pour moi, c'est Shakespeare. Ce qui est incroyable, c'est Leonard Cohen, ça peut être repris de plein de manières. Donc, le chemin du répertoire, c'est la différence. Ce qui va faire histoire avec les œuvres de Pina, c'est la différence. C'est le fait que Shakespeare est monté d'une manière différente, si c'est un tel, une telle, dans tel pays, de telle manière. Voilà. Mais aujourd'hui, on a encore des danseurs qui ont travaillé avec elle. On a encore les costumes d'origine. On a encore donc il y a des choses avec son répertoire qu'on peut quasiment pas toucher. C'est comme ça. C'est sacré. Mais par contre, j'ai aussi la chance d'avoir la liberté, qui est aussi une liberté octroyée par la Fondation Pina Bausch, d'inventer par exemple pour Avignon, pour le Festival d'Avignon, un projet très spécial où on est en immersion dans Café Müller, donc une de ses pièces iconiques. On peut être en grande proximité avec du public tout autour qui est dans la pièce, et puis on joue quasiment en boucle, sans s'arrêter, comme si Café Müller ne va jamais s'arrêter, et c'est symbolique aussi. Hein. On veut que Café Müller, malgré l'absence de Pina Bausch, de Yann Minarik, on continue cette pièce, on la reprend, on la travaille, on est plein de danseurs différents, de générations différentes, et on se la prend, on s'en empare, on l'essaye, on la prolonge, et c'est une forme de liberté incroyable. On va voir ce que ça va donner à Avignon, mais il y a la tentative avec de l'histoire.
Ça s'appelle Forever et ce sera joué donc à Avignon au mois de juillet. On mettra les dates sur le site de France Culture à la page de l'émission. Je rappelle que Liberté Cathédrale, on peut voir votre création jusqu'au 18 avril au Théâtre du Châtelet à Paris en collaboration avec le Théâtre de la Ville et qu'on pourra aussi la voir à Avignon les 5, 6, 8 et 9 juillet prochains.
Pour finir, Boris Charmat, nous avons choisi deux chansons sur deux disciplines que vous avez pratiquées, l'une sur le ping-pong, l'autre sur le violon. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter?
Quand même, je crois le ping-pong parce que ça m'intrigue et puis on a quand même deux frères pongistes qui font l'actualité et un des deux joue à la chinoise comme moi je joue à la chinoise aussi, alors je suis hyper admiratif, enfin je suis jaloux en fait, des frères Lebrun.
Vous a surpris à Plastique Bertrand Boris
Mais
Charmat.
Oui, je me dis, est-ce que j'ai eu raison de choisir le ping-pong? Mais ouais. Je regrette pas, va pour Plastique Bertrand.
Merci beaucoup Boris Charmat d'être venu dans les midis de Culture, une émission préparée par Aïssatou Endoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Parez, Manon Delasselle et Apolline Limosino. L'émission réalisée ce midi par Daphné Leblon avec Félicie Faugère et la prise de son, c'était Marie-Claire Oumabadi. Merci à tous et à toutes. Merci Géraldine. À demain.
À demain Nicolas.